Les invités se réunissent. À la rumeur extraordinaire qui se produisait dans le buffet, à l'éclairage resplendissant qui donnait un aspect nouveau et de fête à tous les objets connus du salon et de la salle de bal, à la vue surtout de la musique que le vieil Ivan Ivanovitch n'avait certainement pas envoyée pour rien, il était visible qu'on attendait une grande quantité d'invités pour le soir. Au bruit de chaque voiture qui s'arrêtait devant le perron, je courais à la fenêtre. Je mettais mes mains en abat-jour et, avec une impatiente curiosité, je plongeais dans la rue. Des épaisses ténèbres qui enveloppaient au dehors choses et gens ressortaient peu à peu. Tout en face, la petite boutique connue avec ses lanternes. Obliquement, une grande maison avec les deux fenêtres du bas éclairées. Au milieu de la rue, un malheureux Vanka avec deux voyageurs, ou un coupé vide qui retournait lentement chez son maître. Mais voilà un coupé qui s'arrête devant notre perron. Et moi, avec la certitude que ce sont les invités qui ont promis de venir de bonne heure, je cours à leur rencontre dans le vestibule. Au lieu des Ivines, j'aperçois par-dessus l'épaule du laquais qui ouvre la portière deux femmes. L'une, grande, avec une pélisse bleue, un col en martre. L'autre, petite, tout enveloppée d'un châle vert, d'où ressortent de petits pieds enfermés dans une élégante chaussure de fourrure. Sans faire le moins du monde attention à ma présence dans le vestibule, bien que je crusse nécessaire de saluer, les deux femmes passèrent devant moi. Puis, la petite s'approcha silencieusement de la grande, et cette dernière lui dénoua son châle et lui enleva ses fourrures. Les laquais s'approchèrent alors pour leur prendre ces objets et retirer leurs chaussures. Et, à la place de la petite personne enveloppée et voilée, apparut une gentille fillette de 12 ans. Dans une robe de mousseline courte et décolletée, des pantalons blancs et de mignons souliers noirs. Autour de son cou blanc était noué un ruban noir. La tête était entourée de boucles châtain foncé, qui encadrait merveilleusement sa jolie figure et retombait sur ses épaules nues, et que personne, pas même Karl Ivanovitch, n'aurait cru ainsi bouclée, pour la seule raison que, depuis le matin, elles avaient été enveloppées dans des papillotes faites avec la gazette de Moscou, puis, ensuite, chauffées avec les pinces. Il paraissait vraiment qu'elle était née ainsi, avec cette jolie petite tête bouclée. Le caractère le plus frappant de sa figure était la grandeur extraordinaire de ses yeux bombés, mi-clos, qui offraient un étrange mais agréable contraste avec sa bouche mignonne. Ses lèvres finement dessinées, son regard profondément sérieux, donnaient à sa physionomie une expression indéfinissable, repoussant jusqu'à l'attente d'un sourire. Aussi, quand cet inattendu se présentait, le recueillait-on avec 1000 fois plus de plaisir. Ne me souciant pas d'être remarqué, je disparus par la porte du salon, et je trouvai plaisant de me promener de long en large avec un air pensif, qui semblait tout à fait ignorer que des invités se trouvaient déjà là. Quand les nouvelles venues furent au milieu de la salle de danse, j'affectai de sortir de mes réflexions. Je m'inclinai et annonçai la présence de la babouchka dans le grand salon. Madame Valakina, dont la figure me plaisait extrêmement, peut-être à cause de la ressemblance que je lui trouvais avec sa fille Sonichka, me fit une bienveillante inclinaison de tête. La babouchka semblait être très heureuse de voir Sonichka. Elle l'appela auprès d'elle, arrangea une boucle qui lui tombait sur le front et, la regardant attentivement, dit « Quelle charmante enfant !» Sonichka sourit, rougit, répondit aux caresses de la babouchka. Tout cela avec tant de grâce que je rougis à mon tour en la regardant. « J'espère que tu ne t'ennuieras pas chez moi, mon ami, » fit la babouchka en lui soulevant le menton. « Je te conseille de t'amuser et de danser le plus que tu pourras. » « Voilà, il y a déjà une dame et deux cavaliers, » ajouta-t-elle en s'adressant à Madame Valakina et en me touchant au bras. Ce rapprochement me fut si agréable que, de nouveau, il amena la rougeur à mes joues. Sentant s'accroître ma timidité, Bien que j'entendisse le bruit des voitures qui s'arrêtaient, je préférais m'éloigner. Dans le vestibule, je trouvai la princesse Kornakov avec son innombrable quantité de filles. Elles se ressemblaient toutes, comme toutes ressemblaient à la princesse, leur mère, à laquelle elles avaient pris sa laideur. Pas une seule n'était vraiment digne d'attirer mon attention. En ôtant leurs pelisses et leurs boas, elles parlèrent toutes à la fois d'une voix aiguë, se dépêchant en riant de toutes leurs forces, probablement de se voir si nombreuses. Étienne était un garçon d'une quinzaine d'années, de grande taille, très musclé, le visage fatigué, les yeux enfoncés sous l'orbite, avec d'énormes mains et de non moins grands pieds, trop grands pour son âge. Il était maladroit, avait la voix inégale, était toujours content de lui-même et me semblait, à moi, un garçon à fouetter. Nous restâmes assez longtemps debout, l'un vis-à-vis de l'autre, et, sans dire un mot, nous nous regardions. Puis nous nous rapprochâmes l'un de l'autre, et il me sembla que nous voulions nous embrasser. Mais nous regardant encore dans les yeux, je ne sais pourquoi, nous changeâmes d'avis. Quand ses sœurs passèrent près de nous avec leurs froufrous, je demandai, pour dire quelque chose, si elles n'avaient pas été trop à l'étroit dans leur voiture. « Je ne sais, » me répondit-il négligemment, « je ne vais jamais en couper. Le mouvement de la voiture me fait mal au cœur, et maman le sait. Quand nous allons quelque part, le soir, je me mets toujours sur le siège. C'est beaucoup plus gai. On voit tout. Philippe me donne les rênes et je conduis. Quelquefois, je prends aussi le fouet. Et il m'arrive de faire au passant, » ajouta-t-il avec un geste significatif, « c'est adorable. » « Votre Excellence, » dit un laquais en entrant dans le vestibule, « Philippe demande où vous avez mis le fouet. »« Comment, où je l'ai mis ? Ben, je le lui ai rendu. » Il dit que vous ne l'avez pas rendu. C'est que je l'ai alors accroché à la lanterne. Philippe assure qu'il n'est pas là non plus. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Et voilà que Philippe va être obligé de payer de son propre argent vos gamineries, continua le laquais, en s'échauffant au fur et à mesure qu'il parlait. Ce laquais, qui avait des allures tout à fait dignes et sérieuses, semblait vouloir prendre chaleureusement le parti de Philippe, et décider, coûte que coûte, à faire le jour sur cette petite affaire. Par un instinctif sentiment de délicatesse, je fis comme si je n'avais rien entendu, et je m'écartai un peu. Mais les laquais présents n'imitèrent pas ma discrétion. Ils se rapprochèrent, au contraire, et regardèrent le vieux serviteur d'un œil approbatif. « Eh bien, si je l'ai perdu, je l'ai perdu !» fit Étienne, d'un air qui indiquait qu'il voulait en finir. Qu'est-ce que coûte ce fouet? Je paierai ce qu'il a coûté. Comme tout cela est ridicule, reprit-il en s'approchant de moi et m'entraînant dans le salon. Mais non, barine, permettez. Avec quoi paierez-vous? Je sais comment vous payer. Voici le 8e mois déjà que vous devez à Maria Vassilievna 20 kopecks. Et c'est la 2e année que vous me devez à moi et à Petrouchka? « Veux-tu te taire ? » s'exclama le jeune prince, pâlissant de colère. « Moi-même, je dirai tout. »« Je dirai tout, je dirai tout !» répéta le laquais. « Ce n'est pas bien, votre excellence, » ajouta-t-il sur un ton particulièrement expressif, tandis que nous entrions dans la salle de danse. « c'est bien !» fit une voix approbative dans le vestibule. La babouchka avait un remarquable talent pour adapter le vous et le toi à la situation des personnes qui l'entouraient, et donner à ce singulier et à ce pluriel une signification tout autre que celle qui lui avait été imposée par l'usage. Quand donc le jeune prince s'approcha de la babouchka, elle lui adressa quelques mots en lui disant « vous » et lui jeta un coup d'œil si méprisant que, si je m'étais trouvé à sa place, je me serais cru absolument perdu. Mais Étienne était, comme il le faut croire, un garçon d'une tout autre constitution. Non seulement il ne fit pas attention aux paroles de la babouchka, mais encore il ne prit garde à sa personne et s'inclina devant toute la société sans la moindre gêne. Sonitchka attirait toute mon attention. Je me souviens que quand Volodia, Étienne et moi causions au salon dans certains coins, d'où on voyait distinctement Sonitchka, tandis qu'elle, de son côté, pouvait nous apercevoir et nous entendre, je parlais avec plaisir. Quand il m'arrivait d'avancer un mot plus ou moins téméraire, une phrase à effet, je parlais plus haut et je regardais la porte du salon. Mais quand nous allâmes à une autre place, d'où l'on ne pouvait ni nous entendre ni nous voir du salon, je me tus, ne trouvant plus aucun plaisir à la conversation. Cependant, le salon et la salle du bal se remplissaient peu à peu. Dans le nombre des jeunes invités, comme il arrive toujours dans les bals d'enfants, se trouvaient quelques grands, qui ne voulaient pas perdre l'occasion de s'amuser et de danser, et qui étaient enchantés de le pouvoir faire sous le facile prétexte de plaire à la maîtresse de la maison. Quand les Yvines arrivèrent, au lieu du plaisir que je ressentais ordinairement à me rencontrer avec Suryoja, j'éprouvai contre lui un mécontentement étrange, de ce qu'il allait voir Sonitchka et se montrait à elle.